Bienvenue à la soirée inaugurale de la Fête des Tabernacles 2025. Pouvez-vous le croire? Nous sommes un quart de siècle après le passage à l'an 2000. Si vous avez moins de 35 ans, vous ne savez peut-être pas ce que cela signifie, mais pour ceux d'entre nous qui sont là depuis plus longtemps, nous nous souvenons de cette époque qui semble si lointaine. Je suis sûr que dans le groupe où vous vous trouvez, vous n'aurez pas de mal à trouver quelqu'un d'assez âgé, et vous pourrez vous renseigner auprès de lui après l'assemblée. Le fait est que le temps passe et que nous nous approchons de l'époque que ces fêtes du septième mois décrivent. Allons à Romains, chapitre 13. Je vais commencer au verset 11. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Il est écrit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Oui, le temps avance. Le moment approche où Jésus-Christ reviendra, où il empêchera Satan de tromper l'humanité plus longtemps, où le millénium commencera, où vous et moi aurons la possibilité de faire partie de cette famille régnante dans le royaume de Dieu. Qui que nous soyons, nous sommes proches de ce moment. Pour certains d'entre nous, nous sommes là depuis longtemps. Cela fait 3, 4, 5, voire 6 décennies que nous sommes dans l'Église de Dieu. Et nous avons célébré de nombreuses fêtes des tabernacles. Mais apprenons-nous encore? Profitons-nous encore de cette période ou si nous nous contentons simplement de poser des gestes? Pouvons-nous voir comment notre monde a changé au cours de cette période? Au cours des seules 10 dernières années, le monde a changé de façon spectaculaire. Mais pour ceux d'entre nous qui étaient dans les années 70 et même dans les années 60 du siècle dernier, notre monde a changé de façon dramatique. Il a changé de façon étonnante. Nous voyons les événements prendre forme, en particulier en Europe, alors que l'Allemagne a opéré un grand changement, un grand virage, et a décidé de se réarmer une fois de plus. C'est une chose frappante, difficile de voir comment cela allait se produire. Mais avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout fut bousculé. Et puis, la nouvelle administration américaine a également exacerbé la situation. Nous voyons donc que la prophétie avance. Je veux vous rappeler ce soir pourquoi nous sommes ici. Cette fête n'est que l'ombre de ce qui nous attend. Et la réalité est tout juste devant nous. Je tiens à vous rappeler que la manière dont nous observons cette fête est d'une importance vitale. En fait, la manière dont nous l'observons est plus importante que le fait de l'observer. N'est-ce pas ce que Paul a expliqué aux Corinthiens lorsqu'ils célébraient la Pâque de manière incorrecte? Notez-le dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous commencerons au verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ils étaient là en train de célébrer la Pâque et ils se réunissaient non pas pour le meilleur, mais pour le pire. Il dit, « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Vous pouvez lire la suite, mais j'y fais référence pour nous aider à nous rappeler que même l'apôtre Paul a dit que nous pouvons nous réunir pour célébrer une fête et le faire pour le pire, et non pour le meilleur. Je doute sérieusement qu'il faille attendre encore un quart de siècle pour que la fête des tabernacles devienne une réalité. C'est pourquoi nous devons, si nous sommes à la dérive, nous réveiller du sommeil, comme il est dit dans le livre des Romains. Nous devons nous débarrasser des œuvres des ténèbres, revêtir l'armure de la lumière et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher correctement, comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans la débauche et la luxure, non dans les querelles et l'envie. Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cela se trouve dans Romains au chapitre 13, comme nous avons vu. Il faut donc reconnaître que ce n'est pas le moment de relaxer. Ce n'est pas le moment de se relâcher en ce qui concerne le service de Dieu et l'obéissance à Dieu. Il est temps de prendre au sérieux l'époque laquelle nous vivons. Je pense que la plupart d'entre nous sont sérieux au sujet de cette époque. J'ai remarqué que dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, Paul dit ceci à propos des Thessaloniciens. Ces gens n'étaient pas sans problème. Ils avaient des difficultés et des problèmes. Mais remarquez ce qu'il dit à leur sujet. Et je suis heureux de dire ici que cette déclaration s'applique pour l'écrasante majorité des membres de l'Église du Dieu vivant. Il nous dit que nous sommes liés ensemble. C'est dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. L'amour des membres abondait les uns envers les autres. Et vous savez, quand nous regardons nos congrégations, nous voyons une énorme quantité d'amour. Et nous voyons beaucoup d'amour ici, à la fête des tabernacles, où les gens partagent et s'entraident, où ils fraternisent. S'ils vont au restaurant, peut-être à l'hôtel où ils séjournent, et qu'ils voient quelqu'un assis tout seul, ils l'invitent. Ou bien, vous vous approchez d'eux et vous vous asseyez avec eux. C'est une atmosphère merveilleuse que nous avons ici, en particulier dans certains de nos plus petits sites. Si quelqu'un est seul, c'est plus évident. Il y a une sollicitude mutuelle. La plupart d'entre nous attendaient cette fête avec impatience. Nous espérions qu'elle arriverait bientôt. Nous l'avons préparée pendant des mois, parfois 6 mois avant. Nous nous disions « elle n'arrivera jamais ». Mais ce soir, après des mois de planification, après l'anticipation et le voyage, nous y sommes. Nous voici à la soirée inaugurale de la fête. De la même manière, nous attendons avec impatience que le royaume de Dieu paraisse et que le millénium s'accomplisse, qu'il commence. Et oui, tout comme cette fête est arrivée, le millénium arrivera en son temps. Le retour de Jésus-Christ, l'établissement de sa famille, la famille divine régnant sur l'humanité pour apporter la paix, la prospérité et toutes les choses que nous apprécions lors de cette fête des tabernacles qu'elle représente. Dans Jacques chapitre 5, nous recevons quelques instructions. Jacques 5, et je vais commencer au verset 7. Il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Oui, nous devons être patients. Nous devons reconnaître que ce jour viendra. Il viendra réellement, comme la fête revient chaque année. Le royaume de Dieu viendra. Vous aussi, soyez patients. Verset 8. Affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est pourquoi, mes frères, nous devons être patients. Nous devons reconnaître que cela ne s'est pas produit aussi rapidement que certains d'entre nous l'avaient espéré. Beaucoup d'entre nous pensaient que le Christ viendrait dans les années 70 au siècle dernier. Nous sommes maintenant 50 ans plus tard et il n'est pas encore venu. Mais lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous observons ce qui se passe dans le monde, nous constatons qu'il évolue inexorablement dans cette direction. Et cela viendra aussi certainement que nous sommes ici ce soir. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, la fête des tabernacles est un test. Nous n'y pensons peut-être pas de cette manière. Mais la fête des tabernacles est un test. C'est un test pour certains, pour savoir s'ils obéiront à Dieu et s'ils respecteront son commandement de célébrer la fête. Remarquez dans Deutéronome, chapitre 16, Deutéronome, chapitre 16. Nous tournons ici souvent, en partie, lorsque nous faisons des offrandes. Je ne vais pas lire cette partie, mais nous commencerons au verset 13. Il est écrit, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. » C'est donc ce qu'il nous dit de faire. « Tu célébreras la fête, verset 15, pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. » Pas n'importe où, mais à l'endroit choisi par l'Éternel. « Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Dieu veut donc que nous nous réjouissions. Il veut que nous soyons heureux. Il nous ordonne de le faire. Il nous ordonne de venir ensemble et de célébrer la fête. Remarquez que Jésus a célébré cette fête, même sous menace de mort. Dans Jean, chapitre 7, nous pensons à cet exemple. Jésus a célébré la fête. C'était en des temps difficiles. Mais il n'a pas reculé. Il n'était pas lâche. Il est allé de l'avant pour célébrer la fête. Il est dit, dans Jean 7, verset 1, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. » La fête des tabernacles, fête des Juifs, était proche. Nous savons que c'était vraiment la fête de Dieu. C'est ce qui est dit dans Lévitique 23. Ce sont les fêtes de Dieu. Mais Jean écrivait à la fin du 1er siècle, et de nombreux païens étaient entrés dans l'Église à cette époque. Et ils voulaient s'assurer qu'ils comprennent ce qu'était la fête des tabernacles. C'est une fête que les Juifs observaient. Il a ajouté, « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. » Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Il pensait qu'il voulait simplement se faire de la publicité pour toutes les choses qu'il faisait. « Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Remarquez le verset 5, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Mais ses frères ne croyaient pas en lui à cette époque. Et Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. » parce que mon temps n'est pas encore accompli. Mais remarquez le verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Ensuite, nous savons qu'il s'est montré ouvertement au milieu de la fête. Puis nous avons le dernier grand jour mentionné plus tard dans la fête, lorsqu'il prêchait aux gens qui étaient là. Dans Zacharie, chapitre 14, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, nous avons ce passage que vous entendrez probablement lire plus d'une fois au cours de cette fête. Il est important que nous comprenions que le millénium n'est pas une période où la terre sera un désert total, comme certains l'enseignent à tort. Ce sera une période où Jésus-Christ et la famille de Dieu, et j'espère que c'est vous et moi, j'espère que nous serons tous là. Nous aurons l'occasion d'apporter la paix sur cette terre. Mais remarquez le verset 16, car Jésus-Christ va ordonner au monde entier de célébrer cette fête. Nous sommes donc des pionniers. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que le monde entier fera plus tard. Nous sommes les pionniers. Nous sommes les pionniers de l'avenir, avenir dans lequel nos enfants vivront, alors que nous y serons des êtres spirituels actifs. Il est dit au verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille de l'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Le commandement est spécifié dans Lévitique et dans Deutéronome. Nous voyons que Jésus a célébré la fête des tabernacles, même menacé de mort. Et ici, nous voyons que lorsqu'il reviendra, après avoir reçu le royaume et pris la direction du monde, le monde recevra l'ordre de célébrer la fête des tabernacles. Maintenant, quand vous regardez toutes ces preuves, quand vous réfléchissez, pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas célébrer la fête des tabernacles aujourd'hui, surtout en comprenant ces choses? Je comprends que les gens n'en ont jamais entendu parler, et ceux-là n'en ont pas envie, mais pour ceux d'entre nous qui ont entendu ces choses, ceux qui sont là depuis un certain temps, si nous sommes en bonne santé, si nous pouvons nous rendre à la fête, nous devrions venir à la fête. Il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas participer à la fête, sauf pour des raisons de santé, et il peut y avoir quelques autres raisons valables, mais pas simplement parce que, eh bien, je pense que cette année, je vais rester à la maison ou je peux observer la fête chez moi, j'économiserai ma deuxième dîme, j'irai manger au restaurant, j'observerai la fête à la maison. Non, vous ne pouvez pas garder la fête à la maison, vous devez célébrer la fête à l'endroit que Dieu a choisi. Je sais qu'il y a des situations, comme en 2020, à cause du COVID-19, où l'Église a dit que dans certains pays, les membres n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient confinés à la maison. Ils pouvaient être arrêtés s'ils essayaient de se réunir. Et personne ne louait de salle pour eux. Je comprends donc qu'il puisse y avoir une telle exception. Mais nous ne devons pas établir la règle à partir d'une exception. Dieu nous dit de monter à l'endroit où il a choisi de placer son nom pour célébrer la fête. Je suppose que nous pourrions dire qu'à l'époque, il a choisi de placer son nom dans les maisons. Je sais que dans un pays en particulier, les gens étaient autorisés à recevoir une douzaine de personnes chez eux pour une réunion dans leur maison. Ils étaient tous connectés électroniquement. Mais Dieu veut que nous célébrions la fête. Et je pense que parfois, les gens ont cessé d'assister régulièrement aux assemblées. Ils se sentent peu à peu à l'aise de ne pas venir célébrer le jour du sabbat hebdomadaire. Puis, c'est pareil pour la fête des tabernacles. Il s'agit donc d'un test. Allez-vous célébrer la fête comme Dieu nous l'a commandé? Le deuxième test consiste à déterminer si nous financerons la fête à la manière de Dieu ou à notre manière. Dans Deutéronome 14, au verset 21 à 23, nous lisons ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que produira ton champ chaque année. Et ce n'est pas tous les trois ans, c'est chaque année. Et il ne s'agit pas de la dîme pour soutenir le travail du ministère. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est une phrase très importante. Afin que tu apprennes toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. Il dit donc que nous devons mettre de côté une dîme. Nous l'appelons la dîme de la fête. Parfois, nous l'appelons la deuxième dîme. Mais nous devons économiser cette dîme. C'est ainsi que nous finançons la fête. Pour nos chambres d'hôtel, nos frais de voyage, nos repas pendant que nous sommes hors de chez nous. Mais parfois, les gens pensent, je connais une meilleure façon que celle de Dieu. Je vais simplement prendre mon dernier chèque de paye. Je peux m'en sortir avec ça. Ou pire encore, je dépendrai des autres pour me sortir de là. Ils prendront soin de moi. Je ne pense pas que plusieurs le fassent, mais j'en ai entendu parler dans le passé. Je pense que la plupart d'entre nous obéissent à Dieu et réussissent ce test qui consiste à économiser la dîme de la fête et de la dépenser comme Dieu le veut à la fête. C'est donc le deuxième test. Le premier consiste à se présenter, à célébrer la fête. Le second est de financer la fête de la manière dont Dieu nous dit de le faire. Et si nous avons beaucoup d'excédents, nous pouvons certainement les partager ou les envoyer à l'Église qui finance la fête pour de nombreuses veuves et d'autres personnes lors de la fête des tabernacles ou pour d'autres besoins spéciaux. Mais pour ceux qui passent ces deux premiers tests avec succès, il y en a un troisième. Ici, dans Deutéronome 14, je veux le lire. Au verset 26, « Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Je pense que lorsque les gens entrent dans l'Église de Dieu, je sais que j'y ai certainement pensé de cette manière, ils se disent « Wow, c'est vraiment génial! Je peux dépenser l'argent de la dîme pour tout ce que mon cœur désire. Je peux faire des sorties, faire ceci, faire cela et autre chose. » Je me souviens avoir dit « Je pourrais manger du steak 3 fois par jour. Du steak et des œufs pour le petit déjeuner, un steak pour dîner et peut-être un chateaubriand pour le repas du soir. » Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était probablement pas une bonne idée, car la plupart d'entre nous ne sont pas habitués à manger autant de viande. Il y a peut-être des personnes qui mangent beaucoup de viande, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la solution. Au fil du temps, j'ai dû apprendre que faire ce qui me plaisait n'était pas ce que Dieu avait en tête pour la fête des tabernacles. Le troisième test consiste à voir ce que vous ferez avec la dîme de la fête que vous avez, qui est plus d'argent que vous n'en avez normalement à n'importe quel moment de l'année. Un peu comme quand vous faites votre déclaration d'impôt et que vous en recevez un gros bonus. Mais pour la plupart, lorsque vous prenez la dîme de votre revenu et que vous la dépensez uniquement pour les fêtes, et cela pour la fête des tabernacles en particulier, vous êtes riche plus que d'habitude. Et selon votre revenu, quel qu'il soit, vous êtes un peu plus riche que vous l'êtes normalement dans l'année. Dieu nous met donc à l'épreuve pour voir ce que nous allons en faire, et nous devons grandir en ce sens. Et je pense que la plupart des gens ont grandi aussi dans ce sens. Mais il se peut que nous ayons de nouvelles personnes, il y a peut-être des jeunes qui n'ont pas encore appris cette leçon. Monsieur Armstrong nous a enseigné qu'il y a 2 façons de vivre. La première est la voie naturelle, la voie de prendre, tourner vers soi. Voici ce que je veux, voici comment je veux faire les choses. C'est la façon de vivre du monde. Mais l'autre voie, c'est celle de donner, la voie de la sollicitude, de l'attention portée à l'autre. Et c'est ce que nous devons faire. Vous savez, le docteur Meredith parlait souvent de leadership au service des autres. Et il lisait Matthieu, chapitre 20. Matthieu 20. Je vais commencer au verset 25. Ici, nous constatons que les fils de Zébédée et leur mère sont venus au Christ. Elles voulaient que chacun de ses fils soit assis l'un à droite et l'autre à gauche du Christ dans son royaume. Le Christ a pris cela comme une occasion pour enseigner. Il ne s'est pas contenté de les corriger sévèrement. Il s'est servi de la situation pour leur montrer quelque chose. Nous apprenons ensuite que les 10 autres l'ont appris et qu'ils ont été très mécontents des 2 frères. Au verset 25, Jésus les appelle à lui encore une fois. Il s'agit d'un moment d'enseignement. Il y a un moment où il a corrigé les pharisiens, les sadducéens, même Jacques et Jean à un moment ultérieur ou antérieur. Il les a corrigés et il leur a dit qu'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient animés. Ou Pierre, la même chose. « Arrière de moi, Satan! » C'était une occasion d'enseigner. Il dit au verset 25, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Quand on y pense, ne s'agit-il pas là d'un leadership de serviteur, s'occuper des besoins des autres, veiller à leur bien, tout comme Jésus l'a fait? Vous savez, il n'était pas obligé de venir ici dans ce centre. Je suis sûr que le Père et lui auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient. Mais le Père était prêt à regarder et à voir son fils être brutalement assassiné et maltraité, et Jésus était prêt à subir ce sacrifice atroce, les coups et tout ce que sa crucifixion impliquait. Ils ont fait cela. Ils ont fait cela. Pourquoi? Pour vous et pour moi, et pour toute l'humanité. Pas seulement pour nous, mais comme nous voyons dans le dernier grand jour, pour que toute l'humanité ait ce merveilleux don. de la connaissance de la vérité et l'occasion d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Il veut donc que nous ayons la même attitude. Ainsi, lorsque le docteur Meredith parlait de leadership serviteur en citant ces versets, il expliquait que cela consiste à se préoccuper des besoins des autres. Cela nous amène à Philippiens, chapitre 2, un autre passage très connu de l'Écriture. Philippiens, chapitre 2, je vais commencer au verset 1. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, Philippiens 2, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, il ne dit pas que nous n'avons pas d'intérêt propre. Oui, nous en avons. Nous devons manger, nous devons nous laver, prendre soin de nous, nous vêtir. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, il explique comment il est venu. Il s'est dépouillé et il est devenu un sacrifice pour le péché, afin que nous ayons la vie. Dans Jacques, chapitre 1, le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 22, Jacques 1, verset 22, il dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous savez, par le passé, et je remonte dans certains cas à des décennies, nous avons eu des gens qui sont venus à la fête et qui se sont enivrés ou qui ont organisé de grandes festivités où ils restaient tard dans la nuit à boire, même à fumer. J'ai vu cela dans les années passées. Je n'ai pas vu cela dans l'Église du Dieu vivant. Mais il fut un temps où l'Église était beaucoup plus grande, où elle avait grandi très rapidement et où les gens avaient des idées différentes de ce qu'était la fête, en particulier les jeunes. Et j'imagine que nous avons probablement un peu de cela. Cela se produit parfois, et j'espère que ce ne sera pas le cas cette année. Il arrive parfois que des jeunes se laissent aller, pour ainsi dire, qu'ils sortent en faisant des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mais il y a un prix à payer, chaque fois que nous faisons ces choses, bien sûr. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la religion pure, sans tache, consiste à penser aux orphelins, aux veuves, à ceux qui ont des difficultés pour une raison ou pour une autre. Ceux qui célèbrent la fête pour la toute première fois et qui ne savent pas vraiment quoi faire. Peut-être quelqu'un qui a perdu un conjoint il y a quelques semaines ou quelques mois ou même une année ou plus. Nous devons nous soucier de toutes ces personnes. Vous savez, le livre d'Ecclésiaste est lu par les Juifs pendant la fête des tabernacles. Il contient une leçon très importante, très puissante. Plusieurs leçons, pourrions-nous dire. L'une d'entre elles est que le bonheur n'est pas le résultat de se servir soi-même. Rien de tout cela n'est vraiment satisfaisant. Le fait de prendre soin uniquement de soi n'est pas vraiment satisfaisant. C'est important. Nous devons bien sûr prendre soin de nous-mêmes. Mais si notre seul objectif est de nous amuser et de chercher notre intérêt, nous ne serons jamais satisfaits. Remarquez dans Ecclésiaste 2, verset 10 et 11. Salomon dit ceci. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vous savez, Salomon a essayé le vin, les femmes, les chansons. Il a peut-être même essayé la drogue, nous ne savons pas. Il n'y a rien qu'il n'ait pas essayé. Pas seulement cette sorte de plaisir physique, mais aussi l'aménagement de jardins, de beaux jardins, et l'entretien de toutes sortes de choses. La musique était évidemment quelque chose qu'il aimait beaucoup, de la musique en direct, aussi souvent qu'il le souhaitait. Il a essayé de rire, par les bouffons de la cour, entre autres. Mais il a dit que c'était poursuite du vent, sans avantage à en tirer. Il en est arrivé là, verset 17. Et j'ai haï la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Il est donc bon que nous pensions au livre d'Ecclésiaste, que nous lisions ce livre de l'Ecclésiaste. Peut-être que vous aurez un sermon à ce sujet durant la fête. Et si ce n'est pas le cas, lisez-le durant cette période. Et rappelez-vous que le bonheur ne vient pas du fait de servir son propre intérêt et de s'offrir des plaisirs à soi-même. Cependant, Dieu veut que nous jouissions des fruits de notre travail. Il ne veut pas que nous soyons ascétiques. Il ne veut pas que nous nous privions de tout ce qui est bon. Remarquez au verset 24 du même chapitre 2, il dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » En d'autres termes, il reconnaissait que le fait de pouvoir jouir des fruits de son travail vient de Dieu, qu'il y a une certaine satisfaction à cela. Pas simplement pour se faire plaisir, mais pour pouvoir en jouir, s'asseoir, se détendre et peut-être partager avec d'autres les fruits de notre travail. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il le dit plusieurs fois, comme dans Ecclésiaste 5, verset 17. « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, c'est bien, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil. » pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Alors oui, on peut sortir, acheter quelque chose de nouveau. Pour les femmes, peut-être une nouvelle robe. Je ne dis pas comment nous devrions dépenser l'argent à la fête des tabernacles, je dis simplement qu'il y a un temps pour profiter des fruits de notre travail. Si nous avons travaillé, si nous l'avons gagné, nous pouvons profiter de ces choses. Dieu veut que nous puissions le faire. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. La fête des tabernacles est un test pour voir où se trouve vraiment notre cœur. C'est une merveilleuse occasion que nous avons, non seulement de servir notre propre personne, mais aussi de servir les autres. Croyons-nous vraiment ce que dit Actes 20, verset 35? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est écrit que Jésus a dit, nous ne savons pas exactement où c'était, c'est Paul qui le rapporte, ou Luc, dans ce qu'il a écrit, mais Paul en a parlé, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le croyons-nous vraiment? Je pense que c'est parfois le cas et qu'il est parfois facile d'oublier ces choses. Dans Deutéronome, chapitre 16, versets 13 à 15, nous l'avons déjà lu, il nous dit d'observer la fête des tabernacles durant 7 jours. Puis au verset 14, il dit, tu te réjouiras à cette fête. Maintenant, remarquez qu'il dit, toi, ton fils et ta fille. C'est assez facile lorsque nous avons des membres de la famille avec nous. Nous voulons qu'ils profitent de ces choses. Mais remarquez qu'il dit, ton serviteur et ta servante, ceux qui ont travaillé pour toi durant l'année, et le lévite, l'étranger. Remarquez, l'étranger, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Dieu veut donc que nous célébrions cette fête. Il veut que nous en profitions. Il veut que nous puissions jouir des fruits de notre travail. Mais quand nous regardons la situation dans son ensemble, c'est un test pour voir ce que nous allons faire. Allons-nous faire seulement ce que nous voulons? Allons-nous aller à la fête en nous disant « Voilà ce que je vais faire, telle chose, et personne ne va se mettre en travers de mon chemin. » Ou regardons-nous autour en nous disant « Qui puis-je servir? À qui puis-je donner une bonne fête? » Dans le livre de Néhémie, ils avaient perdu la compréhension de la fête pendant un certain temps. Ils étaient revenus de la captivité, ils étaient à Jérusalem. Et ici, dans Néhémie, chapitre 8, encore une fois, un chapitre qui vous sera probablement lu au cours de cette fête. Je ne vais pas le couvrir entièrement, mais je veux me référer au verset 13, qui dit ceci. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne. Ils devaient ramasser des branches et ainsi de suite pour pouvoir construire des tentes. Nous ne faisons pas ça aujourd'hui parce que la ville nous jetterait probablement en prison si nous commencions à couper les arbres autour. Mais ils faisaient ces choses pour avoir des tentes sous lesquelles ils pouvaient s'asseoir. Verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans les cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux. Verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. Je voudrais revenir un peu en arrière, au verset 9. La partie centrale dit, Esdras dit, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Verset 10, il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. » et envoyer des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Ils devaient donc célébrer la fête, et ils faisaient toutes ces choses physiques. Mais il montre ici qu'ils devaient faire l'effort de s'occuper les uns des autres, ne pas penser seulement à eux-mêmes, mais aussi à ceux pour qui rien n'avait été préparé, quelqu'un qui vient peut-être d'arriver à l'église, ou quelqu'un qui a moins d'argent que vous. Pensez à eux. Et vous savez, c'est l'une des choses merveilleuses de la fête des tabernacles. C'est intéressant parce que tout le monde essaie de servir les autres. Il devient même difficile de payer l'addition à la fin d'un repas. C'est difficile de le faire parce que les gens se précipitent pour être les premiers à payer l'addition. C'est une attitude de sollicitude. Mais j'espère que nous ne le ferons pas seulement pour d'autres personnes qui pourraient financièrement se hâter de payer l'addition, mais aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Il nous faut penser à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve et à ceux qui se sentent seuls pour une raison ou pour une autre. Pas seulement les veuves, mais les veufs aussi. Nous avons plusieurs personnes qui ont des besoins nombreux. Alors, qu'est-ce que je dis? Si vous voulez avoir la meilleure fête qui soit, donnez de vous-même, offrez-vous. Ne vous contentez pas d'avoir une bonne fête personnellement, mais donner une bonne fête aux autres. Le temps passe, les années se succèdent et le moment que ces fêtes représentent arrive. Il arrive très vite. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais je sais que nous sommes beaucoup plus proches aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Continuons d'apprendre les leçons que Dieu veut nous inculquer. Pour vivre l'esprit de la fête, il faut se préoccuper de ceux qui nous entourent et nous en souvenir. Cette année, concentrez-vous donc sur la planification d'une bonne fête. Il est donc temps d'aller à votre chambre, passez une bonne nuit de repos et préparez-vous à donner demain une bonne fête.